en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 6 juin 2012, le Bureau des Longitudes accueillait une conférence de Mathieu Gounel, professeur au laboratoire de minéralogie et cosmochimie du Muséum national d'histoire naturelle. Son intervention portait sur les météorites. Durant sa conférence, Mathieu Gounel s'est attaché à donner une définition des météorites, à expliquer leur provenance, à détailler leur classification, ainsi qu'à décrire les différents lieux dans lesquels elles peuvent atterrir, que ce soit en Antarctique ou encore à la Namibie où se trouve aujourd'hui la plus grosse météorite jusque-là découverte. Elle pèse 60 tonnes. Il évoque également les risques que nous encourons par les chutes de ces météorites. Je vous laisse maintenant rejoindre Mathieu Gounel à la Fondation Simonet et Sino del Duca. Pour accompagner ses propos, vous pouvez consulter le PDF et les visuels qu'il a présentés qui sont mis à votre disposition en fin d'article.
Je vais essayer effectivement de vous présenter les météorites de façon assez générale, en commençant par un petit peu l'interaction de ces objets quand elles tombent sur Terre avec notre planète, pour finir avec des questions un peu plus scientifiques qui relèvent de l'origine de notre système solaire. Donc, un plan rapidement de la présentation. Donc, je ferai d'abord une introduction assez générale. Ensuite, effectivement, je reviendrai sur les différentes méthodes de collecte de météorites dans les déserts chauds et froids. Ensuite, je parlerai des météorites sur Terre et de l'effet qu'elles peuvent avoir sur l'environnement. Et ensuite, je m'intéresserai à la question de savoir d'où proviennent les météorites, de quel corps céleste, pour ensuite parler un peu davantage des chondrites et de ce qu'elles peuvent nous apprendre sur la naissance du système solaire. Donc il y a un grand nombre de sujets, certains je n'aurai pas le temps de les aborder en détail, mais je serai heureux de répondre à toutes les questions à la fin. Donc je vais commencer par quelques définitions assez simples, mais pour avoir un peu une idée des domaines de taille dont on parle. Donc on va parler de météorites pour des objets dont la taille est comprise en gros entre le centimètre et la centaine de mètres. En dessous, on parle de micrométéorites. C'est une définition pratique qui a à voir avec la façon dont on a là de les collecter. Et puis, au-dessus de 100 mètres, on parlera d'astéroïdes ou de bolides. Et donc, vous avez une petite micrométéorite à droite, dont vous voyez la barre d'échelle de l'ordre de 20 microns. C'est une photo prise en microscopie électronique à balayage. Donc, c'est vraiment des objets extrêmement petits, des agrégats de poussière très très fins. Et à gauche, une météorite macroscopique que nous conservons au muséum. Il y a une première distinction qu'il est importante de faire quand on travaille sur les météorites, celle entre les chutes et les trouvailles. Donc, comme leur nom l'indique, les chutes sont des objets, des météorites qu'on a vus tomber sur Terre. Tandis que les trouvailles sont des météorites que l'on a trouvées sans que leur chute ait été observée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une trouvaille peut être sur Terre depuis des milliers d'années, voire des millions d'années. La météorite qui est sur Terre depuis le plus longtemps est une météorite de fer trouvée en Antarctique et qui serait tombée il y a quelques millions d'années sur Terre. Donc évidemment, on préfère travailler sur des chutes que des trouvailles, puisque l'atmosphère terrestre modifiait au cours du temps les propriétés des météorites. Donc à gauche, vous avez Tagish Lake, une chute assez célèbre, et cette météorite est tombée sur un lac, comme son nom l'indique, un lac glacé dans le Grand Nord canadien. Elle a été récupérée immédiatement par un trappeur. Déjà, on a eu de la chance qu'il y ait un trappeur sur place. Ensuite, on a eu beaucoup de chance que ce trappeur ait la présence d'esprit non seulement de récupérer la pierre, mais en plus de la conserver dans un congélateur. Et ça s'est révélé très important puisque c'est une météorite qui contient des composés organiques relativement labiles qui certainement auraient disparu si cette météorite avait été trouvée ne serait-ce que quelques années après sa chute. Et il n'est même pas certain d'ailleurs qu'elle ait résisté plus de quelques années à l'environnement terrestre, tellement c'est un objet friable. L'échelle, c'est le point, la taille du point. La météorite. Et à droite, vous avez une trouvaille, donc une des météorites qu'on a trouvées en Atacama. Et donc à la fin de l'exposé, vous pourrez regarder, j'avais aussi apporté deux météorites. Et vous pourrez voir en partie que l'une, qui a passé beaucoup plus de temps dans un désert que l'autre, est rouillée et oxydée par sa présence sur Terre. Donc on travaille de préférence sur les trouvailles. Pour vous donner un peu une idée du nombre de météorites qu'on a à notre disposition, c'est de l'ordre bientôt de 40 000 météorites, dont seulement 1 000 chutes. Et l'essentiel des météorites, on y reviendra, proviennent de l'Antarctique. Donc, juste un petit catalogue des météorites les plus emblématiques, en tout cas la plus grosse qui est tombée en Namibie, c'est une météorite de fer, et c'est devenu un monument national dans ce pays. Et il y a aussi la météorite la plus lointaine. C'est une météorite qui a été trouvée à la surface de Mars par un de ces petits robots qui ont parcouru la surface de Mars et qui ont analysé la composition des roches. Donc là, c'est le petit robot Spirit qui est tombé sur ce caillou et composé essentiellement de fer et de nickel et qui n'est rien d'autre qu'une météorite qui est tombée sur la surface de Mars. Alors pour qu'un caillou, un objet soit déclaré officiellement une météorite, il faut que son nom, sa nature météoritique et son nom soient approuvés par la Meteoritical Society, la société savante qui s'occupe de l'étude des météorites. Et donc cette météorite martienne a été dûment déclarée par ses découvreurs, par les opérateurs du robot Spirit à la Meteoritical Society. Donc évidemment, les météorites, il y a un très grand nombre de types. Tout commence un peu par une science naturelle, avec une classification qui peut être assez complexe, assez rébarbative. Il ne s'agit pas du tout ici d'étudier cette classification en détail. Mais en tout cas, il est important de retenir qu'il y a trois grands types de météorites, que l'essentiel des météorites sont des météorites de pierre, qui représentent 93% des chutes, contrairement à ce qu'on croit. Assez souvent, on a dans l'idée que les météorites les plus communes sont des météorites de fer. C'est simplement parce que ce sont des météorites qui se distinguent très facilement des roches terrestres. Alors qu'une météorite de pierre, si on n'est pas spécialiste, c'est pas toujours évident d'identifier sa nature extraterrestre. Mais les météorites les plus communes sont bien les météorites de pierre qui représentent 93% des chutes. Ensuite, vous avez les météorites de fer qui représentent environ 6% des chutes. Et puis ce qu'on appelle les météorites mixtes, qui sont un mélange de pierre et de fer, comme leur nom l'indique, qui représentent 1% des chutes de météorites sur Terre. Alors, parmi les pierres, on distingue deux types. On distingue les chondrites, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont des objets extrêmement primitifs, sur lesquels je vais revenir, qui sont des pierres qui se sont constituées très tôt dans l'histoire du système solaire, pendant les premiers millions d'années, et qui n'ont pas évolué depuis. C'est pour ça qu'ils sont si scientifiquement si intéressants, ou quels, on peut dire une météorite ou un météorite, que ces chondrites sont scientifiquement si intéressantes, c'est que ce sont des objets qui n'ont pas changé depuis la formation du système solaire. Donc, ils nous permettent de voyager dans le temps et de comprendre les mécanismes à l'œuvre il y a 4,5 milliards d'années. Donc là, encore une fois, les barres d'échelle ne sont pas là, mais sont des objets d'une taille de quelques dizaines de centimètres. Et donc, les chondrites, des roches primitives, et puis un deuxième type de pierre qu'on appelle les achondrites. Comme leur nom l'indique, ce ne sont pas des chondrites, et elles sont des pierres relativement évoluées, c'est-à-dire qui viennent de corps suffisamment grands pour avoir évolué géologiquement. Donc de fait, il y a vraiment une différence entre les chondrites, qui sont ces roches primitives qui n'ont pas évolué, et ce qu'on appelle les météorites différenciées, qui rassemblent à la fois les météorites de fer, les météorites mixtes et les achondrites. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien tout simplement, lorsqu'un corps est suffisamment grand, son rapport surface sur volume est trop petit, ne parvient pas à se refroidir efficacement, donc il fond. Et s'il fond, le métal se sépare des silicates, on appelle ça une ségrégation, une différenciation, et vous retrouvez le métal dans le centre et les silicates à l'extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé sur la Terre, et ça s'est passé aussi sur un grand nombre de corps célestes, encore une fois suffisamment grands pour avoir fondu. Et donc on pense que ces météorites de fer ne sont rien d'autre que les noyaux de petites planètes, d'une certaine façon, ou de gros astéroïdes, après tout est une question de définition, qui se sont différenciés. Et que les météorites mixtes sont cette frontière entre le noyau et le manteau, tandis que les achondrites représentent des roches crustales, l'équivalent des roches crustales sur Terre. Alors, je ne reviendrai pas sur ces météorites différenciées, parce que vous voyez bien que là, il y a deux mondes qui sont quand même très différents. Les chondrites, qui vont intéresser plutôt les gens qui s'intéressent aux premiers millions d'années du système solaire et à la formation, aux phases précoces de la formation du système solaire. Et puis, il y a un autre monde qui traite plutôt de l'évolution planétaire. Donc, d'une certaine façon, à gauche, vous avez plutôt des thématiques qui ont à voir avec l'astrophysique, comment se forme une étoile, quelles sont les premières phases dans un disque protoplanétaire autour d'une étoile, et tandis qu'à droite, vous avez quelque chose qui a plus à voir avec de la géologie, c'est-à-dire comment évoluent des corps qui ont des tailles comparables à celles d'une planète. Évidemment, la partie de droite, même si je ne reviens pas, est extrêmement importante, puisque, par exemple, on n'aura jamais accès au noyau de la Terre. Donc, en revanche, en étudiant les météorites de fer, on a un analogue relatif, puisque ça vient de corps, en principe, beaucoup plus petits, mais un analogue relatif à la matière que l'on pourrait trouver, si l'on était capable, de forer jusqu'au centre de la Terre. Donc, en France, on a à peu près 70 météorites et l'essentiel de ces météorites sont des chutes. Donc ici, le code est tel que lorsque vous avez un point à l'intérieur du rond, il s'agit de chute. Quand vous n'avez pas de point, il s'agit de trouvaille. Donc vous voyez que les chutes dominent. C'est pas parce que les météorites aiment particulièrement tomber sur la France, c'est tout simplement que ce n'est pas un pays qui se prête à la conservation de météorites. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une surabondance de chutes, mais plutôt une sous-abondance de trouvailles, puisque si une météorite tombe dans la Beauce, il est douteux que vous la retrouviez un jour si vous ne l'avez pas vue tomber. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle en France, on a essentiellement des chutes. Et donc on peut voir assez facilement, donc en bleu sont marquées ce qu'on appelle les chondrites ordinaires, donc qui sont les météorites les plus communes, d'où leur nom de météorites ordinaires. Alors au Muséum National d'Histoire Naturelle, on a la charge de la collection nationale de météorites, qui est une assez belle collection. C'est la troisième collection en termes de chutes observées. J'ai déjà dit combien il était important d'étudier des chutes plutôt que des trouvailles. Et donc en France, on a la chance d'avoir un grand nombre de chutes. C'est à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. De bonnes raisons parce que les scientifiques français ont été parmi les premiers à s'intéresser aux météorites au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, et pour de mauvaises raisons qui sont dues à la taille de notre empire colonial. Donc, il y a aussi si vous regardez les collections les plus riches de météorites, ça correspond aux pays européens qui ont eu des empires coloniaux assez étendus. Puisque là, plus vous avez de surface, plus vous allez récupérer d'objets. Donc là, vous avez deux météorites emblématiques de la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle, la météorite de Chassigny, qui est une météorite martienne, tombée en 1816 en Haute-Marne, et à droite, vous avez une photo de la météorite d'Orgueil, qui serait une météorite cométaire, qui proviendrait d'une comète, et qui est tombée à proximité de Montauban en 1864. Et cette météorite d'Orgueil, peut-être vous en avez déjà entendu parler, elle a la propriété d'avoir exactement la même composition chimique que le Soleil. Comme il est beaucoup plus facile de mesurer la composition chimique d'un caillou au laboratoire que celle d'une étoile à distance, l'abondance des différents éléments dans la météorite d'Orgueil est considérée comme non seulement l'abondance de référence pour notre système solaire, mais même au-delà de ça, comme l'abondance de référence de la galaxie, des étoiles en général. Donc les météorites continuent de tomber, évidemment. Comme j'ai dit, la collection du muséum s'appuie sur une longue tradition, mais elle est enrichie en permanence par des achats, des échanges, et aussi par des chutes récentes. Donc en France, l'an dernier, il y a eu une chute dans la région parisienne, à Draveil, dans l'Essonne, en juillet 2011, et les personnes qui ont vu tomber cette météorite et qui l'ont récupérée ont fait don d'un fragment conséquent au muséum. Alors, évidemment, on préfère travailler sur les chutes, mais il n'y en a que 1000, hein, donc on échantillonne quand même relativement peu la diversité des météorites, et puis on ne peut pas non plus attendre qu'une météorite tombe. Donc pour augmenter le nombre de météorites à notre disposition pour travailler, eh bien on va les chercher aux endroits où elles s'accumulent, et donc les endroits où elles s'accumulent sont les déserts. Donc il y a en particulier un désert où l'on va régulièrement, où j'ai la chance d'aller dans le cadre d'une expédition organisée par Jérôme Gatacheka du laboratoire Serège à Aix-en-Provence. Et donc l'Atacama, comme vous le savez, est ce désert qui occupe le nord du Chili, qui est coincé entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, et qui est un des endroits les plus secs, si ce n'est le plus sec du monde, si on excepte l'Antarctique. Et c'est vraiment dû à cette situation géographique particulière, puisque, pour vous donner une idée, l'endroit de l'Atacama où on va est à la même latitude que Rio de Janeiro. Donc voilà, c'est pas seulement, comme vous le savez, la latitude qui détermine les climats. Et c'est un désert extrêmement ancien, donc les météorites ont eu tout le loisir de s'accumuler au cours du temps. Donc voilà une image de ce désert, et vous voyez, ça évoque, pour ceux qui ont vu des images, par exemple la surface martienne, ça ressemble beaucoup à la surface martienne. Donc c'est un endroit extrêmement sec, avec des blocs de pierre, de basalte, parsemés. Alors comment est-ce qu'on cherche des météorites dans un tel endroit? Parce que vous avez vu, il y a des cailloux, donc on a estimé à peu près que pour trouver une météorite, on examinait, entre guillemets, 1 million à 10 millions de cailloux. Donc, évidemment, on ne les examine pas individuellement. Hein, c'est juste que le couplage œil-cerveau, c'est quand même quelque chose d'assez, je vais pas dire miraculeux, mais d'assez admirable. Donc, le cerveau est capable, sans regarder, évidemment, individuellement toutes les pierres, de réagir lorsqu'il voit une pierre suffisamment insolite et à laquelle il est habitué aussi, puisque évidemment il y a une forme d'entraînement pour voir une pierre. Donc la technique est extrêmement simple, hein, il s'agit de marcher dans le désert et de regarder par terre. Évidemment, on risque pas de se payer un poteau ou un palmier puisqu'il y a rien. Et donc voilà, dès qu'on voit une pierre qui ressemble à une météorite, on s'arrête, on l'examine, on fait une rapide mesure magnétique pour avoir une confirmation. Et c'est comme ça qu'on procède. Donc là, vous voyez par exemple une météorite qui a été trouvée par... Donc généralement, on est 7 à 8. Hein, on se met deux groupes de 4 en ligne. Et là, on a une collègue tunisienne qui vient de trouver une météorite qui s'est fragmentée. Donc là, elle ne s'est pas fragmentée dans l'atmosphère, mais c'est probablement fragmenté sur le sol en raison, même si c'est très sec, il y a quand même de l'humidité, du gel, et donc sur des milliers d'années, ces météorites subissent l'interaction de leur environnement. Donc c'est pas un exercice extrêmement facile, il faut un petit peu d'entraînement, puisque là c'est par exemple tous les candidats météorites que vous voyez sur cette image. Je vais pas vous faire voter pour décider laquelle est la météorite, donc faites-vous une opinion en quelques secondes chacun d'entre vous, et après je vous dirai... laquelle c'est. Et voilà, donc je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais en tout cas, ce n'est pas toujours facile. Même si, évidemment, une façon de rendre ça plus facile est de choisir à l'intérieur du désert des terrains qui ne sont pas trop riches en lithologie, proches, dont les pierres ont une couleur proche de celle des météorites. Donc la couleur vraiment typique, là avec les vidéos, etc., c'est difficile à voir. Vraiment la couleur typique des météorites dans ce désert, parce que dans chaque désert ça change, c'est couleur boîte de conserve rouillée. Si vous prenez une boîte de conserve, vous la laissez dehors pendant 4 ans, ça rouille. Voilà, c'est vraiment la couleur qu'ont les météorites dans ce désert-là, tout simplement parce que le métal qu'elles contiennent est oxydé et donc est rouillé. Ça augmente au cours du temps, donc on est content, ça veut dire qu'on gagne de l'expérience. La dernière fois, on a retrouvé 200 quand même. Donc c'est assez efficace. Après, c'est comme les champignons, il faut aller aux bons endroits et faire attention à ce qu'on ne soit pas suivi par des concurrents. Parce que vous savez, il y a plein de gens qui cherchent à trouver des météorites. Voilà, donc un des endroits où aller chercher des météorites sont les déserts chauds. Donc là, on va encore une fois avec les gens du Serej en Atacama, mais ça peut être au Sahara, dans le désert du Namib, ça peut être n'importe quel désert chaud. Pour peu qu'il n'y ait pas une surabondance de roches sombre ou marron rouille, parce que là, si vraiment il y en a trop, l'œil devient dingue, on n'y arrive plus. Et puis, il faut aussi que la logistique ne soit pas trop compliquée, ce qui est le cas pour le Chili. Alors, il y a un autre endroit où on va chercher des météorites, c'est le continent Antarctique. Là, la logistique est un peu plus compliquée pour se rendre là-bas. Et donc, comme je l'ai dit, il y a presque 40 000 météorites qui ont été trouvées en Antarctique. Et la majorité de ces météorites ont été trouvées le long d'une chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne de montagnes transantarctique. Donc, vous voyez cette ligne qui est tracée par les différents endroits où on a trouvé des météorites. Chaque code de 3 lettres est l'abréviation d'un lieu dit, entre guillemets, le long de cette chaîne de montagnes. Donc toutes ces météorites sont trouvées au pied de cette chaîne de montagnes transantarctique. Donc là, les nations qui organisent le plus régulièrement des collectes de météorites en Antarctique sont les Américains et les Japonais. Pour des raisons historiques, les Japonais, c'est parce que sont eux qui ont mis en évidence les mécanismes d'accumulation des météorites en Antarctique, sur lesquels je vais revenir. Et les Américains, c'est parce qu'ils ont des bases qui sont à proximité de ces montagnes transantarctiques et des moyens logistiques aussi assez importants. La base française principale se situe, on voit ici Terre Adélie, en bas à droite, je ne vais pas dire au sud, parce que cet endroit-là, il n'y a plus vraiment de sud ni de nord, tout est au sud. Et donc c'est assez éloigné des régions d'accumulation des météorites, donc il n'y a pas d'expédition de collecte qui sont organisées par les Français. Donc là, en Antarctique, ça marche de façon un peu différente du Chili, puisque les météorites sont collectées en skidoo. Donc là, vous avez une image, vous avez les montagnes transantarctiques en arrière-fond, et une équipe américaine qui est en train de chercher des météorites sur des motos des neiges. Mais donc là, pour le reste, la technique est la même. Il s'agit d'utiliser l'œil. Sauf que là, c'est encore plus facile puisqu'il n'y a vraiment pas de cailloux. Donc, l'essentiel des cailloux que vous voyez sont des météorites. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une météorite trouvée au pied de ces montagnes antarctiques. Donc vous voyez cette roche assez noire, très facile à distinguer. Alors pourquoi est-ce qu'on les trouve au pied des montagnes ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un mécanisme d'accumulation. Donc les météorites tombent évidemment partout sur le continent antarctique. Le continent antarctique en surface c'est de la neige relativement fraîche, l'équivalent de ce qu'on appelle un névé en glaciologie. Et ensuite elle s'incorpore dans ce névé, incorpore la glace que vous trouvez un peu plus en profondeur. Et comme vous le savez, l'Antarctique n'est rien d'autre qu'un gigantesque glacier. Et donc la glace, comme dans un glacier, flue depuis l'amont jusque vers l'aval. Donc il y a accumulation de neige de masse en amont, c'est-à-dire dans le centre de l'Antarctique, et perte de masse par vélage au niveau des côtes par libération d'iceberg. Donc les météorites suivent ce gigantesque mouvement de fluage de la glace, sauf que lorsque cette glace rencontre une montagne, eh bien ce mouvement est interrompu et donc les météorites sont bloquées au pied des montagnes. Et l'Antarctique est aussi un continent qui se caractérise par des vents extrêmement violents qu'on appelle les vents katabatiques. Et ces vents donc érodent la glace et font remonter, si vous voulez, les météorites. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on trouve des météorites qui s'accumulent au pied des montagnes en Antarctique. Donc en Antarctique, on collecte aussi des micrométéorites. Donc ça, c'est des techniques qui ont été mises au point par Michel Morette dans les années 80 et qui ont été reprises par Jean Duprat et Cécile Engrand, toujours au groupe d'Orsay. Et donc en Antarctique, il y a des milliers de micrométéorites qui sont collectées. Donc je rappelle, micrométéorites sont des poussières qui font environ 100 microns de taille. Donc là, on ne les voit pas du tout en surface. Donc il a fallu inventer des techniques différentes. Et donc cette technique, là, c'est celle mise au point par Jean Duprat, qui fonctionne dans la neige, donc dans les régions centrales de l'Antarctique. Donc il faut déjà se rendre dans une base qui a pour nom Concordia, qui est une base franco-américaine, qui est située en plein centre. Ça ne correspond pas tout à fait à la Terre d'Élie. Donc vous avez à gauche un dôme C qui est en plein centre de l'Antarctique, et Dumont-Durville, c'est la base qui se trouve en Terre d'Élie. D'accord. Donc, et le voyage se fait depuis l'Australie, depuis le port d'Hobart jusqu'à Dumont-Durville en bateau et ensuite en petit avion depuis la côte de Terre Adélie jusqu'aux régions centrales de l'Antarctique. Et à droite, donc, vous avez une vue de cette base de Dôme C. L'architecture est assez impressionnante et qui a été un peu conçue dans l'idée qu'un jour ça pourrait servir de base sur Mars ou sur une autre planète. Et le voyage donc, entre Paris et Dôme C, c'est à peu près 11 à 12 jours. Et donc, une fois là-bas, il y a une tranchée qui est creusée par les logisticiens de l'Institut polaire. Et dans le flanc de cette tranchée, on collecte tout simplement de la neige que l'on fond dans un gigantesque bain-marie mis au point par Jean Duprat. Et ensuite, on récolte des petites poussières. Et l'essentiel de ces petites poussières qui sont récoltées par filtration de la neige fondue sont des micrométéorites. Alors maintenant, je vais parler un petit peu des météorites sur Terre et donc de l'interaction des météorites avec notre atmosphère. Donc quand une météorite rentre sur Terre, la première chose qu'elle rencontre, c'est l'atmosphère. Et elle rentre à une vitesse assez élevée, quelques dizaines, entre 10 et 30 km par seconde en moyenne. Et donc évidemment, il y a un choc assez important et cette météorite est freinée par l'atmosphère. Sa température s'élève, donc elle perd, sa surface fond, et elle arrive jusqu'à perdre jusqu'à 90% de sa masse. Et elle perd 90% de sa masse, et en plus de ce phénomène lumineux, qui est dû au freinage de la météorite par l'atmosphère, vous avez un phénomène sonore, puisque la météorite se déplace plus vite que le son, donc il y a un bang supersonique. Donc après la fragmentation, et vous avez vu dans le petit film précédent, que la météorite également se fragmente lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère, tout simplement dû à des forces au choc de son énergie cinétique. Et elle abandonne derrière elle de la matière, donc jusqu'à 90% de sa masse, qui peut former ensuite des petits nuages qu'on peut observer pendant plusieurs heures après le passage de la météorite. Donc les météorites de petite taille sont assez inoffensives et elles font ce qu'on appelle un trou de pénétration. Donc elles ne font pas de cratères. On verra, les cratères, c'est uniquement pour les météorites de grande taille. Quand vous êtes une météorite de petite taille, vous faites un trou qui est comparable à dont le diamètre est comparable à votre propre diamètre. Donc là, c'est une voiture qui a pris une météorite sur le feu arrière. Et donc il y a relativement peu de blessés dus à des chutes de météorites. Donc il y a cette dame qui a eu un hématome aux États-Unis et ce petit garçon en Ouganda qui a pris un fragment d'une météorite sur la tête, mais sans dommage. Alors, cette météorite, elle fond, sa surface fond quand elle rentre sur Terre et donc se forme, et une fois qu'elle tombe sur Terre, évidemment elle se refroidit assez rapidement et cette dernière surface fondue est gelée et forme une espèce de croûte de verre qu'on appelle la croûte de fusion. D'accord ? Donc ça, c'est comme ça qu'on reconnaît une météorite qui vient de tomber, c'est en raison de cette croûte noire qu'on appelle la croûte de fusion qui est due à la combustion de la météorite dans l'atmosphère. Évidemment, au cours du temps, cette croûte de fusion, qui est enrichie en fer, puisque le fer est un élément assez commun des météorites, va rouiller, et donc ce sera plus difficile à distinguer. Ici, vous avez une météorite qui a passé quelques milliers d'années dans le Sahara, qui est un désert beaucoup plus humide que l'Atacama. Donc en Atacama, ça rouille, mais très très lentement. Dans le Sahara, ça rouille beaucoup plus vite, et là, vous pourrez voir tout à l'heure que la croûte de fusion a été grandement endommagée. Pour avoir un peu une idée du nombre de météorites qui tombent sur Terre, c'est un chiffre relativement important. Donc c'est de l'ordre de 54 tonnes par an, ce qui correspond environ à 4000 météorites plus massives que 1 kg sur toute la Terre. Donc ce ne sont pas des chiffres énormes. En revanche, vous avez beaucoup plus de petites poussières qui tombent, puisque vous avez 6000 tonnes par an de poussières qui tombent sur la Terre. Donc ces petites poussières que l'on va chercher en Antarctique, eh bien, ce sont elles qui dominent le flux de matière extraterrestre sur Terre à l'heure actuelle. Donc j'ai dit que tout ça concernait les chutes des petites météorites. Si vous êtes une météorite suffisamment massive, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est comme si l'atmosphère n'était pas là. Vous savez qu'en aérodynamique, pour qu'un objet soit freiné, il faut en gros qu'il rencontre une masse de fluide comparable à sa propre masse. Donc si une météorite est trop massive, elle ne rencontrera jamais une masse d'air comparable à sa propre masse et elle parviendra au sol avec sa vitesse initiale, donc la vitesse cosmique de l'ordre de 20 km par seconde, et donc elle formera un cratère, cette fois-ci d'explosion. Et là, le cratère est beaucoup plus grand que la météorite qui est tombée. Il y a un rapport 10 entre le diamètre du cratère et le diamètre de la météorite qui a provoqué ce cratère. La météorite, là, est complètement volatilisée. On ne la retrouve plus, ou presque complètement. Donc là, c'est vraiment un phénomène explosif. Elle arrive avec une vitesse de 10 km par seconde. Elle touche la surface terrestre. C'est l'onde de choc qui crée le cratère, d'où sa taille beaucoup plus grande que la météorite. Et la météorite elle-même est volatilisée. Donc là, vous avez l'exemple du cratère le mieux conservé sur Terre, qui a environ 50 000 ans, et qui se trouve en Arizona, donc qui a été créé par une météorite d'environ 100 mètres, et c'était probablement une météorite de fer. Donc on retrouve quelques fragments autour de cette météorite, mais évidemment, presque rien par rapport à la taille initiale. Donc les cratères sur Terre, il y en a un très grand nombre dans différents états de préservation. Comme vous le savez, la Terre est une planète géologiquement active, donc au cours du temps, évidemment, les cratères sont effacés par la tectonique des plaques, l'érosion, etc. Il y a un cratère qui est un peu plus célèbre que les autres, c'est le cratère de Chicxulub. Évidemment, c'est un cratère qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui a été découvert par des études géologiques lors d'activités de prospection pétrolière dans le golfe du Yucatan au Mexique. Et à la fois la taille et l'âge de ce cratère en font un bon candidat pour le cratère formé par la météorite qui aurait provoqué la disparition des dinosaures et de 99% de la faune lors de la limite crétacé-tertiaire il y a 65 millions d'années. Il y a un autre événement un peu moins spectaculaire, beaucoup plus récent et important, qui est ce qu'on appelle l'événement Tunguska, qui a eu lieu il y a un tout petit peu plus d'un siècle. Donc en Sibérie, le 30 juin 1908, il y a un bolide qui n'est pas tombé jusqu'au sol, mais il aurait explosé dans l'atmosphère et ravagé des milliers d'hectares de forêt. Donc heureusement, ça s'est passé dans une région extrêmement déserte. Et donc, il n'y a pas, à notre connaissance, eu de victimes humaines. Mais l'explosion a quand même été comparable à 8000 bombes Hiroshima. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez dévastateur. Alors, de tels objets comparables à Tunguska, donc évidemment, ce sont des statistiques qui sont un petit peu difficiles à dresser, mais ça a lieu tous les 100 ou tous les 1000 ans. Voilà. Vous voyez, c'est quand même relativement fréquent. Et il conviendrait que la prochaine, il ne faudra pas qu'elle tombe n'importe où. Des chutes qui vont provoquer des cratères comparables à celui de Chicxulub, qui vont avoir une influence globale sur la vie sur Terre, c'est environ tous les 100 millions d'années. Donc évidemment, plus une météorite est grosse, et plus sa fréquence de chute est rare. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel dans l'histoire de la Terre. Donc on ne peut pas du tout dissocier l'histoire de la Terre de l'histoire des chutes de météorites. D'une certaine façon, les météorites, par leur aspect dévastateur, mais aussi par un aspect constructeur, puisqu'on pense qu'elles ont contribué à l'apport de matière organique sur Terre ou à l'apport de l'eau sur Terre, ont contribué à façonner l'histoire de la Terre et de la vie. Alors, voilà, donc les risques, évidemment, dépendent de la taille, hein, et on pense qu'une catastrophe globale, c'est pour des objets à partir du kilomètre. Et vous voyez que aussi tout dépend où la météorite tombe, puisque si cette météorite de Tunguska était tombée sur New York ou sur Washington DC, eh bien c'est ou Paris, ces villes auraient été rayées de la carte. La question du tsunami est une question assez compliquée, c'est très difficile à modéliser les effets d'un tsunami créé par une météorite, donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et c'est relativement difficile à modéliser puisque c'est pas du tout comparable à un tsunami provoqué par un séisme, par exemple, puisque les tsunamis provoqués par un séisme, la source d'énergie provient des profondeurs, hein, des terrains qui se trouvent sous la mer, alors que là, la source d'énergie provient plutôt de la surface. Donc, c'est pas exactement le même. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, ça, c'est un sujet qui devient de plus en plus important. Donc, il y a trois choses qu'il faut faire. C'est de détecter les corps, les météorites qui sont à proximité de la Terre, d'évaluer le danger, c'est-à-dire évaluer leur trajectoire, et puis éventuellement, si jamais elles sont menaçantes, de les dévier. Il y a des problèmes à chaque étape. Les comètes sont beaucoup plus difficiles à détecter que les astéroïdes, puisqu'elles ont des orbites elliptiques. Évaluer, c'est très bien, mais encore faut-il que l'on fasse suffisamment vite. Et puis, dévier, on va voir ça tout de suite, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore, parce qu'on pourrait éventuellement songer à détruire ces objets. Mais dans ce cas-là, il pourrait se fragmenter et on pourrait avoir 4 météorites plutôt qu'une. Alors, ce sur quoi donc on a fait des progrès, c'est la détection, puisque là, vous voyez, en fonction du temps, le nombre de Near Earth astéroïdes, donc astéroïdes géocroiseurs, donc astéroïdes dont l'orbite à un moment croise l'orbite de la Terre, et vous voyez que le nombre d'astéroïdes géocroiseurs détectés en fonction du temps a cru très très vite à partir des années 2000, en gros, à partir du moment où il y a suffisamment d'argent qui a été investi dans ces programmes. Dévier, on ne sait pas faire encore. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont été proposées. Donc, comme j'ai fait allusion, une bombe nucléaire, comme ça a été proposé dans certains films. Mais là, on ne sait pas très bien quel effet véritable ça aurait. Créer un impact avec une sonde, tirer au laser, repeindre l'astéroïde, puisque les astéroïdes sont soumis à des forces non gravitationnelles comme l'effet Yarkovsky qui dépendent de la couleur. Donc si on le repeignait tout en blanc ou tout en noir, peut-être on arriverait à en changer la trajectoire. Voilà, donc pour le moment, on ne sait pas trop, et donc ça laisse aux producteurs d'Hollywood l'impossibilité d'exercer leur talent imaginatif. Bon, évidemment, juste pour le plaisir de vous montrer de belles images, hein, cette interaction des météorites, des bolides avec les planètes, quelque chose que l'on trouve dans tout le système solaire. Donc là, vous avez l'image d'un cratère sur la Lune. Là, l'image d'un très beau cratère sur Mars avec une petite calotte glaciaire, un petit névé, si vous voulez. Et puis, la surface de Mercure, elle aussi, parsemée de cratères. Maintenant, c'est quelque chose qui nous semble évident, que ces cratères, que les bolides ont joué un rôle extrêmement important dans l'évolution des planètes, mais d'après ce que j'en sais, ça n'a pas toujours été le cas, et avant même juste avant que les missions Apollo atterrissent sur la Lune, il y avait encore un débat pour savoir si ces cratères qu'on observait étaient des cratères météoritiques ou des cratères volcaniques. Hein, donc cette espèce de réalisation que les impacts ont joué un rôle essentiel dans l'évolution des systèmes solaires est quelque chose de relativement récent. Et même peut-être pas encore complètement intégré. D'où proviennent les météorites? Juste pour vous rappeler la présence de cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et donc là, on va le voir, la plupart des météorites proviennent de cette ceinture d'astéroïdes. Alors, les seules météorites pour lesquelles nous sommes certains de l'endroit d'où elles proviennent, ce sont les météorites lunaires. Tout simplement, la première d'entre elles a été découverte en Antarctique en 1982. Donc, pas grâce à Méliès, mais parce que ces météorites, elles peuvent être directement comparées aux roches rapportées par les missions Apollo. Et donc, on se rend compte que, à la fois, la composition chimique, la composition minéralogique, la composition isotopique de ces météorites, candidates pour être d'origine lunaire, coïncide exactement avec celle des roches, des 380 kg de roches rapportées par les missions Apollo et les 380 grammes rapportées par les missions Luna. Donc ça, ces météorites, C'est une certitude. Mais ce n'est pas un grand nombre de météorites, puisqu'on a environ 100 météorites lunaires dans les collections mondiales. Donc ce sont des météorites relativement rares. Pour ce qui est de météorites qu'on appelle SNC, donc c'est un petit groupe de météorites, là aussi il y en a une centaine. SNC, c'est pour chergotite, naclite et chassinite, ce sont trois types de météorites. Donc là, évidemment, on n'a pas rapporté d'échantillons martiens, mais en revanche, on a envoyé des sondes, à commencer par les sondes Viking dans les années 1976, qui ont mesuré la composition de l'atmosphère de Mars, et on a pu comparer la composition du gaz contenu dans du verre d'impact contenu dans ces météorites à la composition chimique et isotopique de l'atmosphère de Mars, et on a trouvé que ces deux gaz étaient complètement identiques. Là, vous avez un diagramme log-log, et donc vous voyez que sur des ordres de grandeur, l'abondance des différents constituants, l'abondance élémentaire et l'abondance isotopique coïncident, et ça c'est quand même une indication très forte pour dire que ces météorites proviennent de la planète Mars. Mais c'est pareil, on n'a que 100 météorites. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on avait presque 38 000 météorites, donc la question qui se pose c'est d'où proviennent ces 38 000 météorites qui sont répartis en un grand nombre de classes. Eh bien, la majorité des météorites proviennent des petits corps du système solaire, les astéroïdes ou les comètes. Donc là, vous avez deux exemples. L'astéroïde Itokawa, qui a été récemment exploré par la sonde japonaise Hayabusa, qui a même pu rapporter un petit peu de matière de cet astéroïde. Et à droite, la comète Temple 1, sur laquelle la NASA avait envoyé un projectile pour essayer de révéler la poussière de l'intérieur de cette comète. Alors, comment est-ce qu'on sait que la majorité des météorites proviennent des astéroïdes? Eh bien, tout simplement parce que pour certaines d'entre elles, on a pu déterminer l'orbite, tout simplement en étudiant le météore, cette trace lumineuse laissée dans le ciel, et que cette orbite montre que ces météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes. Il y a une exception, c'est cette météorite d'orgueil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, elle est tombée en 1864. En 1864, on ne faisait pas de films ni de photos de météorites qui rentraient à l'atmosphère. Mais en revanche, en 1864, on connaissait très bien le ciel. Certainement beaucoup mieux qu'on ne le connaît maintenant. En tout cas, beaucoup mieux que je ne le connais moi. Et donc, quand cette météorite est tombée, elle est tombée vers 8 heures du soir dans le sud-ouest de la France. Il faisait nuit. Il n'y avait pas l'heure d'été encore. Et beaucoup de personnes qui ont pu observer cette chute de météorites, qui ont envoyé des descriptions à l'Académie des sciences, et extrêmement précise en disant, voilà, le météore est passé entre telle étoile et telle étoile de telle constellation, etc. Et à partir de ça, on a pu reconstituer avec un collègue tchèque, dont c'est la spécialité, l'orbite de cette météorite, et on a montré que cette orbite est compatible avec une origine cométaire plutôt qu'une origine astéroïdale. Alors pour vous donner une idée, les temps de transport depuis ce qu'on appelle les corps parents, donc les astéroïdes, les comètes, les planètes et la Terre, varie entre 100 000 ans à 100 millions d'années. Donc pour finir, je vais vous parler un tout petit peu des chondrites. Donc je vous rappelle que les chondrites sont ces roches primitives. Elles proviennent d'astéroïdes ou de comètes, donc des corps relativement petits, suffisamment petits pour ne pas avoir été différenciés, et donc pour avoir conservé les propriétés des premiers millions d'années du système solaire. Donc la première propriété des chondrites, qui confirme un petit peu cette notion de primitivité, du fait qu'elles n'ont pas changé, c'est leur composition chimique qui est identique, comme je l'ai dit déjà, à celle du Soleil. Donc là, vous voyez, il y a un diagramme, c'est encore une fois une échelle logarithmique, et donc vous voyez que sur 10 ordres de grandeur, à l'exception de 3 éléments, carbone, l'azote et le lithium, et également aussi de l'hydrogène, à exception faite de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont certes les composants principaux du Soleil, mais qui sont absents des météorites, il y a une identité parfaite de composition entre la composition chimique des chondrites, et en particulier de la météorite d'orgueil, et celle de notre Soleil. Donc c'est valable pour les éléments les plus rares, comme le lutécium ou le beryllium, et c'est valable aussi pour les éléments les plus abondants, comme le magnésium, le silicium ou le fer. Les raisons pour lesquelles il y a un appauvrissement dans la météorite de carbone et d'azote, et un enrichissement en lithium sont tout à fait comprises. Donc voilà, donc il y a vraiment ces météorites, si vous voulez, définissent la composition chimique moyenne de notre système solaire. Une autre propriété de ces météorites, ou en tout cas de certaines d'entre elles, de certaines des chondrites, c'est qu'elles sont riches en carbone. Et non seulement elles sont riches en carbone, mais une grande partie de ce carbone est de la matière organique. Et on a découvert non seulement des bases azotées, qui sont les constituants de l'ADN, du sucre, mais également des acides aminés. Et même dans certaines météorites, on aurait peut-être découvert de légers excès de la forme L des acides aminés. Donc ça a conduit certaines personnes à dire que ce sont les chondrites qui ont apporté les briques moléculaires de la vie sur Terre. Évidemment, ça reste un sujet de recherche très important. Alors, de quoi sont faites les chondrites? Les chondrites, ici, vous avez une photo de la chondrite de Léoville, et elles sont faites essentiellement d'un constituant qui s'appelle les chondres, qui sont ces petites billes circulaires que j'ai ici entourées en bleu. Donc, vous voyez, il y en a un peu partout. Et puis, vous avez un composant un peu plus rare, dans le cas de cette météorite de plus grande taille, qui est blanc et qu'on appelle les inclusions réfractaires ou les inclusions blanches. Inclusions réfractaires qui sont les objets les plus anciens de notre système solaire. Ils ont été datés à 4567 millions d'années. Donc leur âge définit l'âge du système solaire, l'âge du Soleil. Et ce sont des objets qui ont été datés aux millions d'années près. Donc on connaît, si vous voulez, leur âge de formation aux millions d'années près. Et ce sont des objets qui ont également été découverts par une grande cristallographe française, Madame Christophe, à la fin des années 60. Avant d'être découvert 2 ans plus tard par une équipe américaine. L'autre constituant, ce sont les chondres. Donc, les chondres sont des petites billes de silicate de magnésium et de fer, composées essentiellement de minéraux qu'on appelle l'olivine, le pyroxène, qui sont des minéraux relativement communs sur Terre, et de métal. Donc là, le métal, en revanche, c'est tout à fait typique des météorites. Et les chondres, comme les inclusions réfractaires, se sont formées dans le disque protoplanétaire, c'est-à-dire dans ce disque de gaz et de poussière qui était en rotation, en révolution autour du Soleil pendant les premiers millions d'années de cette existence. Ce disque protoplanétaire, les premiers à en avoir eu l'idée, ce sont au XIXe siècle les philosophes Kant et Swedenborg. Ça a été aussi repris par Laplace, indépendamment, sous le nom de nébuleuse. Donc c'était vraiment une intuition très forte. Et maintenant, cette nébuleuse, eh bien, on l'observe autour d'autres étoiles. C'est-à-dire que c'est plus du tout une vue de l'esprit. On sait vraiment que les constituants des météorites, que les premiers solides du système solaire se sont formés dans des disques d'accrétion, et ces disques d'accrétion, on les observe autour d'étoiles en formation en ce moment. Donc là, vous avez des images prises par le télescope spatial Hubble de ces disques autour de jeunes étoiles dans la région de formation d'étoiles d'Orion. D'accord? Donc on commence vraiment à avoir un lien direct entre ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années dans notre système solaire et puis ce qui se passe maintenant autour des étoiles en formation. Donc maintenant, je crois qu'il faut plus, on a toujours tendance, en particulier dans la communauté des météorites, à conserver ce mot de nébuleuse. Je crois qu'il faut vraiment passer à autre chose et parler de disques protoplanétaires ou de disques d'accrétion parce que ces objets-là n'ont plus rien de nébuleux. On les observe. On les voit même évoluer, hein. C'est-à-dire qu'avec les derniers instruments, on peut même voir la croissance des solides à l'intérieur de ces disques. Avec le télescope ALMA, on va même pouvoir voir les régions les plus internes de ces disques. Donc ça commence vraiment à devenir très excitant, puisque le pont qui a été si difficile à faire entre les observations astronomiques d'étoiles qui se forment maintenant et ce qui s'est passé dans le système solaire il y a 4,5 milliards d'années commence à être fait. Voilà, donc ce que je disais, une chose qui est très importante dans notre domaine, c'est la datation. Et donc on utilise des éléments radioactifs pour dater les différents constituants des chondrites et les différentes phases de notre système solaire. Et donc ce qu'on trouve, c'est que les inclusions réfractaires, comme je l'ai dit, sont formées il y a 4568 millions d'années, ce qui définit l'âge du système solaire, et que les chondres se sont formées seulement 1,5 million d'années après. Donc toujours dans ce disque protoplanétaire. Donc ça, c'est vraiment les phases les plus précoces de ce disque protoplanétaire. Et ensuite, eh bien, inclusion réfractaire et chondre s'assemblent pour former ce qu'on appelle des planétésimaux, et puis qui sont des objets de taille qui vont du kilomètre à la dizaine de kilomètres. Et ensuite, ces planétésimaux s'assemblent pour former ce qu'on appelle des embryons planétaires qui vont avoir des tailles caractéristiques de 1000 kilomètres. Donc tout ça se forme en quelques millions d'années, toujours dans le disque protoplanétaire. Ensuite, au bout de quelques millions d'années, ce disque se dissipe et reste à construire les planètes, puisqu'on ne vit pas sur un embryon planétaire, mais sur une planète. Et pour passer d'un embryon planétaire à une planète, les échelles de temps sont plus de l'ordre de la centaine de millions d'années. Donc ça, à la fois, on l'obtient grâce à des mesures sur les météorites, et aussi sur des simulations dynamiques d'évolution de ces corps, comme celles qui sont faites par le groupe d'Alessandro Morbidelli à Nice. Et donc toute cette phase de passage des embryons aux planètes, elle se fait sur une échelle de temps de 100 millions d'années environ. Donc pour conclure, vous donner une idée un petit peu d'où on vient. La première mention d'une météorite dans le corpus écrit occidental, à ma connaissance, c'est Anaxagore de Clazomène, en Asie mineure, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et avec une spéculation assez audacieuse et assez juste, puisqu'il pensait que c'était un fragment du Soleil, donc il n'était pas très très loin. Ensuite, en bas à gauche, vous avez la présentation en 1575 d'une comète par Ambroise Paré, qui était un médecin du roi, chirurgien, scientifique, grand humaniste, grand homme de la Renaissance, mais qui avait quand même une vision d'une comète un peu romantique. Et puis tout se passe un petit peu au tournant du 18e, 19e siècle avec les premières analyses chimiques de météorites par un chimiste anglais qui s'appelle Monsieur Howard. Et puis en 1803, avec la chute d'une météorite en Basse-Normandie à l'Aigle. Et à la suite de cette chute, l'État bonapartiste, pas encore napoléonien, envoie un savant enquêter. Et c'est à partir de ce moment-là que les météorites deviennent des objets scientifiques. Donc même si l'histoire des météorites en tant qu'objet culturel et imaginaire est extrêmement ancienne, l'histoire des météorites comme objet scientifique a seulement 3 siècles. Depuis, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Donc il y a, je l'ai déjà dit, une centaine de groupes de météorites. Chacun a son intérêt propre. Chacun échantillonne un astéroïde ou une comète en particulier. Chaque groupe de météorites différenciés échantillonne une planète ou un corps de nature planétaire particulier. Donc on a déjà appris et on va continuer à apprendre énormément de choses avec toutes ces météorites qu'on étudie en détail au laboratoire en bénéficiant perpétuellement de l'avancée de l'instrumentation. Et une grande rupture quand même a eu lieu dans les années 70, évidemment, avec les missions Apollo et toute la technologie qui a été mise en place pour étudier les roches lunaires a grandement bénéficié au développement de l'étude des météorites. Une autre voie de développement extrêmement importante, c'est celle des missions spatiales et des missions de retour d'échantillons spatiales. Donc récemment, on en a parlé un petit peu d'introduction, il y a eu la mission spatiale Stardust, une mission américaine qui a rapporté des poussières de comètes. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler directement. Et puis, il y a eu une mission japonaise qui a échantillonné un astéroïde relié aux chondrites ordinaires. Et puis, il y a une mission en cours de préparation portée par deux astronomes, Antonella Barucci et Patrick Michel, qui viserait à aller échantillonner un astéroïde dit primitif pour en rapporter des échantillons sur Terre. Donc évidemment, ce genre de missions sont extrêmement importantes puisqu'elles nous donnent un petit peu une pierre de touche avec les météorites au laboratoire. On a un grand nombre de types de météorites qui échantillonnent un grand nombre de corps, mais en même temps, on ne sait pas très bien, on ne sait pas d'où elles viennent. On peut spéculer, mais on ne sait pas directement d'où elles viennent. Donc c'est vraiment important d'aller sur place, aller chercher un échantillon et qui aura aussi un contexte géologique dont on sait d'où il proviendra. Et puis, comme je l'ai dit, une autre importante voie de développement de notre discipline scientifique, c'est ce lien grandissant avec l'astronomie. Donc vous voyez à gauche une région de formation d'étoiles qui a à peu près 3 millions d'années. Vous avez une étoile centrale extrêmement brillante. Et tout autour, à quelques parsecs, du gaz dense à l'intérieur duquel les étoiles de masse comparable à celle du Soleil sont en train de se former. En haut à droite, vous avez une vue du site de l'interféromètre ALMA au Chili, donc qui va étudier entre autres choses les jeunes étoiles en formation. Et en bas, l'image d'une exoplanète. Et donc de plus en plus, on va pouvoir marier les résultats au laboratoire d'analyse de cailloux, qui sont faits avec des techniques héritées de la géologie, avec des observations astronomiques de pointe, d'étoiles en formation, pour comprendre à la fois notre histoire, la formation du système solaire, et également, de façon plus générale, la formation des étoiles et des planètes. Merci de votre attention.
Canal Académie vous propose cette retransmission de la conférence de Mathieu Gounel, professeur au laboratoire de minéralogie et cosmochimie du Muséum national d'histoire naturelle. Son intervention portait sur le thème des météorites, histoire d'ici et d'ailleurs. Les conférences du Bureau des longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître le programme des futures conférences, je vous invite à vous rendre sur le site www.bureaudeslongitudes.fr. À bientôt sur Canal Académie pour de nouvelles retransmissions.